franceinter.fr.
Il est 7h47, Alain Baraton.
Eh bien oui.
C'est à vous. Le merisier peut-il être considéré comme l'ancêtre de nos cerisiers?
Le merisier, appelé aussi cerisier sauvage ou prunus avium pour les botanistes, est cultivé depuis longtemps et il a été multiplié de nombreuses fois. Il est le père, si l'on peut dire, et vous avez donc raison de le souligner, il est le père des variétés de cerisiers à fruits doux, comme les guignes et les bigarreaux.
Et vient d'où?
Alors il est, d'après les scientifiques, originaire du pourtour de la mer Caspienne, une mer bordée par l'Iran, le Turkménistan, Turkménistan, pardonnez-moi, Azerbaïdjan, Russie, et je vous pose la question, Patricia Martin.
Le Kazakhstan.
Très fort. Alors cet arbre donc, le merisier, est apprécié depuis toujours par les hommes et il permettait aux populations locales, rurales, de se nourrir principalement en période de disette. Il était donc interdit de le couper dans les bois et forêts au Moyen-Âge. Mieux encore, il était même recommandé d'en planter partout où cela était possible pour que les pauvres puissent en manger.
Sauf qu'on en a planté et que c'est devenu problématique à un moment donné.
C'est problématique qu'en 1669, nous sommes sous le règne de Louis XIV, une ordonnance royale ordonne de les couper. La quasi-totalité des merisiers sont alors abattus et depuis, il est bien rare d'en apercevoir dans les bois et c'est dommage car cet arbre est élégant, il fleurit magnifiquement au printemps, il fleurit en ce moment, il est vraiment splendide et si les fruits ne font plus le délice des pauvres, ils font toujours et encore le bonheur des petits oiseaux.
Et celui d'Alain Bougrain-Dubourg. Existe-t-il des merisiers dans les jardins de Paris?
Je pense que oui, mais je suis incapable de l'affirmer. Ce que je sais est qu'il existe un sentier du merisier dans le 12e arrondissement. Il relie le boulevard Soult et la rue du Niger. Il est l'une des voies les plus étroites de Paris. Sa largeur est seulement de 1 mètre. Une largeur insuffisante pour y loger le plus gros merisier du monde, qui vit à Evanton en Angleterre. Le diamètre de son tronc est de 1,68 m.
Ça vous embouche un coin, ça, Pierre Rey?
Je découvre le merisier.
Travaillez plutôt votre interview de Jean Lassalle.
Le merisier est un arbre vraiment magnifique et je suis persuadé que votre invité, justement, connaît cet arbre qui est vraiment fait partie. Tous les ébénistes, tous les menuisiers adorent travailler ce bois qui a une teinte rougeâtre absolument magnifique.
C'est vrai que c'est très, très beau. Sylbas, c'est un joli prénom ça, est un promeneur épisodique. Il voulait savoir où il est possible de voir des savonniers.
Ah, le nom botanique du savonnier est, Laurent Delmas ne me contredira pas, Coelrotaria paniculata.
Pardon ?
Coelrotaria paniculata. C'est un très bel arbre qui atteint 10 à 12 mètres de hauteur et que l'on appelle savonnier parce qu'une autre variété de Coelrotaria, c'est pas le même, permet justement eh bien, de produire des savons, d'où le nom savon savonnier. Donc là, notre Coelrotaria, lui, pas la peine d'aller piquer des feuilles quand vous en voyez, vous n'obtiendrez absolument aucune possibilité de vous nettoyer les mains ensuite. Alors, où peut-on en trouver? Déjà, il faut l'identifier. C'est un arbre qui fleurit joliment, des petites fleurs jaunes d'un centimètre de diamètre en moyenne. Et puis, il a l'avantage de produire des fruits comme des capsules, on dirait des petits lampions. Il se couvre de loupions. Eh bien, il y en a partout. Pierre Veille, je suis certain que si vous êtes incapable de reconnaître le Coelrotaria, vous en voyez souvent, car il y en a une grande quantité dans les jardins du Luxembourg à Paris.
Il va tout le temps se balader là-bas.
C'est pour
alors,
ça. Donc il y a beaucoup de savonniers, donc ouvrez l'œil. Mais il est vrai que l'on devrait davantage avoir dans sa poche un petit guide des plantes pour être de temps en temps capable de les identifier, parce qu'il y a des plantes qui ont des histoires incroyables à nous raconter, leurs origines, leur lieu de naissance, les propriétés qu'elles possèdent, et parfois même l'utilisation que l'on peut en faire. Donc ce serait bien d'avoir un petit guide dans la poche, et je vais en offrir un bientôt à Pierre Veille. Oui. Pour qu'il puisse reconnaître le Coelrotaria ou le merisier.
Et moi, je vais lui offrir un autre bouquin, c'est le Baraton sans peine. Moi, je l'utilise tout le temps. Comme je comprends tout ce que vous dites. Marie-Jeanne, l'an dernier, son tilleul a perdu toutes ses feuilles fin août malgré un goutte à goutte. Il a toutefois reverdi en septembre. Risque-t-il cette année de reperdre son feuillage?
Malgré un goutte à goutte, ça me fait penser au courriel d'un auditeur que nous avons reçu la semaine dernière qui me reproche mes propos concernant l'absence d'arrosage sur les gazons que l'on vient de semer. Cet auditeur m'explique qu'une racine est intelligente et qu'elle ne se fie pas à l'arrosage pour envoyer en profondeur ses racines. Mmh. Il argumente sur quelques lignes avec une certaine justesse. L'occasion toutefois de rappeler à cet auditeur deux choses. Si son raisonnement était exact, jamais les racines d'un figuier dans le désert ne descendraient aussi profondément. Si la racine était intelligente, elle resterait en surface avec de l'eau.
Et puis ça, surtout, c'est le premier paf. Maintenant, le deuxième.
Et puis surtout,
le second même.
Et puis surtout, vous avez un chroniqueur de jardin laïque. Ce qui veut dire que quand je parle des plantes, je ne fais aucune allusion à la religion. Et le couplet sur la nécessité de souffrir pour pouvoir vivre normalement. Et puis ces couplets sur la religion sont carrément absurdes et bien évident que quand je parle de jardin, je parle de botanique, je parle de la nature, je ne fais pas de messages absolument subliminaux. Donc là, pour répondre à la
le
question...
Le mail était signé de Pierre W. de Paris.
Peut-être. Alors, pour répondre à votre question, quand j'entends parler d'un goutte-à-goutte sur un tilleul, mais pourquoi faire ? Quand vous regardez un arbre, la pierre ne le sait peut-être pas, mais quand vous regardez un arbre à l'extérieur, sachez qu'il a... en volume, la même quantité de racines que de branches. Ça vous donne une idée du volume sous terre de l'arbre. L'occasion d'ailleurs de rappeler que quand on parle d'un arbre qui fait 40 ou 50 mètres de hauteur, il faudrait pratiquement donner le double de sa dimension. On ne voit qu'une partie du végétal. Donc le goutte-à-goutte sur un tilleul n'a aucune raison d'être. Au contraire, la plante réagit. Si le tilleul de notre ami a perdu ses feuilles en automne, c'est que nous étions en période de canicule. Pour réduire ses besoins en eau, la plante se sépare naturellement de son feuillage. Si vous mettez un goutte à goutte, vous perturbez le végétal, parce qu'il ne faut pas confondre présence d'eau dans la terre et sécheresse de l'atmosphère. La plante subit un stress et vous risquez de la perturber. Un petit commentaire à ce sujet. On nous a souvent dit depuis longtemps qu'on n'arrose pas une fleur en plein soleil pour éviter les risques de brûlure. C'est faux. Il faut savoir que quand vous arrosez un massif de fleurs, entre le moment où le soleil tape sur le végétal et l'eau fait loupe, n'arrive jamais, parce que l'eau, avant de faire loupe, s'est évaporée suite à la chaleur. Par contre, la plante, ayant reçu de l'eau, a le sentiment qu'il pleut. Elle s'est donc mise en situation de ciel nuageux, donc sans le soleil. Et là, effectivement, on provoque un déséquilibre. Donc, pour répondre, on supprime immédiatement le goutte à goutte. Si les feuilles tombent à l'automne, c'est normal. Et tout se remettra en place très vite.
Pierre Veil a tout compris ?
Vive les arbres. Il y a un arbre dans la cour intérieure de mon immeuble. Et le matin, à 4h30, les oiseaux chantent. C'est sublime en ce moment.
Vous avez raison de le souligner, d'où l'importance de concrétiser cet appel d'automne que nous avons lancé la semaine dernière dans cette ville qui vous est chère, Patricia Martin, où nous voudrions remettre l'arbre au cœur de la cité. Rappelez qu'un arbre, ce n'est pas seulement de la verdure, c'est aussi un lieu qui reçoit les petits oiseaux qui nous enchantent, mais également les petits mammifères, les insectes, qu'ils contribuent bien sûr au maintien des sols, mais surtout à la biodiversité. L'arbre en ville est indispensable si l'on veut franchir le 21e siècle sans dégâts.
Thérésanne, alors là vous faites gronder, n'ayant pas une nouvelle à la suite de ma question, je la réitère.
Oui.
Alors, le datura que j'ai trouvé par hasard dans le pré des chevaux, peut-il venir des aliments donnés à ces mêmes chevaux ?
Écoutez, alors déjà, je m'excuse auprès de tous les auditeurs, ou plutôt je prie les auditeurs de m'excuser. Nous recevons tellement de questions que je ne peux pas répondre à tous, et souvent quantité de questions d'ailleurs ne me parviennent pas. Alors, le datura est une des plantes les plus toxiques qui soient. Elle fleurit des grands cornets blancs, teintés de jaune. Elle est si toxique qu'on en plantait autrefois dans les champs de pommes de terre, car le doryphore est un insecte un petit peu stupide qui aime bien manger la feuille et la fleur. Moralité, il en meurt. Donc déjà, quand vous avez des productions de pommes de terre, mettez un pied d'atura, ça réduira les problèmes des coléoptères. Mais attention, cette plante est d'une toxicité redoutable. Si vous mangez une partie des feuilles ou des fleurs, vous pouvez vous transformer en oiseau, du moins à croire que vous pouvez voler. Je ne vous dis pas les dégâts.
C'était donc ça l'autre soir que vous aviez avalé.
Oui, tout à fait. Donc c'est une plante extrêmement toxique. Je ne connais pas la toxicité sur les chevaux, mais je pense qu'elle peut être importante. Donc ce serait très inquiétant et perturbant de savoir que du datura se retrouve dans de l'aliment pour cheval. Dans tous les cas de figure, n'étant pas vétérinaire, je conseille de retirer ce pied de datura, parce qu'il y a peut-être, mais je n'en suis pas sûr, pour les chevaux, danger.
Un autre conseil de lecture, celui-ci ?
Oh, écoutez, un livre vraiment merveilleux. Alors là, un coup de cœur incroyable. Un jour avec Claude Monet à Giverny. Oh, c'est de Adrien Goetz. Oui. Les photographies sont de Francis Hamon. C'est une merveille. Quand vous ouvrez cet ouvrage, un beau cadeau à faire.
Il
y a des photos sublimes. On parle bien sûr de Giverny, on parle de Claude Monet. Claude Monet qui avait exigé, j'aime rappeler cette anecdote, d'être enterré sans fleurs ni couronne, car il aimait tellement les fleurs qu'il avait peur qu'on vienne les cueillir dans son jardin pour ses funérailles. Alors c'est un ouvrage, comme je vous disais, merveilleux, publié aux éditions Flammarion. J'aime donner le prix, effectivement, non pas parce qu'on ne donne pas le prix des cadeaux qu'on fait, mais je crois que l'auditeur
parce
a besoin de savoir.
Parce que vous faites jamais de cadeaux, donc vous pouvez donner le prix.
Non, mais l'auditeur a besoin de savoir effectivement s'il peut ou pas. Il coûte 29,90€. C'est une idée sublime de cadeau.
La main verte d'Alain Baraton, mais que ferions-nous sans vous ?